L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dodécaphonique. Mise en scène. Production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Approchez-vous, je vous en prie, et venez vous asseoir. Ils vont s'asseoir devant le bureau dans des fauteuils en cuir noir. Henri Silvert leur demande « Que puis-je faire pour vous ?» Adrien lui dit « Voilà, j'ai un ami qui a fait des études de physique et qui cherche du travail. C'est une personne très sérieuse. » J'aimerais savoir si vous n'aviez pas quelque chose pour l'embaucher. Henri lui dit, je vais bien essayer et le mettre à l'essai. Comment s'appelle votre ami? François lui dit, je suis Jules Villeneuve. J'ai 23 ans et j'ai fait des études de physique. J'ai mon diplôme. Il a falsifier son diplôme pour mettre son nouveau nom. Malheureusement, je suis obligé de quitter Lyon et de vivre à Paris pour des raisons familiales et je cherche un travail. Henri lui demande « Avez-vous déjà travaillé ?» François lui dit « Non, et ce serait mon premier travail sérieux. J'ai fait des petits boulots de rien du tout, comme par exemple garder un enfant. » Henri lui dit « Bien, je vais voir. Vous irez chez le chef du personnel pour signer un contrat d'un mois, pour savoir si vous êtes capable de travailler ici. Vous savez, chez nous, nous travaillons pour l'aéronautique et aussi l'énergie. Beaucoup de contrats pour des pays étrangers et nous travaillons avec les États. Donc, il faut travailler d'une façon très sérieuse et minutieuse. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Si vous voulez, vous venez, disons, la semaine prochaine, le même jour et à la même heure, et vous demanderez le chef des relations humaines, Monsieur Mercier. » Et ils sont partis satisfaits. François est tout retourné. François, c'est-à-dire Jules maintenant. Une fois dans la voiture, il dit à Adrien, « C'est trop ce que tu fais pour moi. Je te remercie. » Adrien lui dit, « Ce n'est rien. Ce que je fais, je le fais pour moi aussi. Tu te rends compte que je vais hériter d'une immense fortune. À moi, la clinique et la grande vie, et ceci grâce à toi. C'est normal que toi aussi, tu es une partie de ce que je vais recevoir. Ne te fais pas de soucis. Pense à la prochaine étape. Nous allons être obligés de rester encore un peu à Paris, puisque la semaine prochaine, tu as rendez-vous avec le chef du personnel. » Alors Adrien décide, comme il ne peut pas encore habiter la maison, de vivre à l'hôtel. Adrien a pris deux chambres dans un hôtel Place de l'Étoile. François, que l'on va appeler maintenant Jules, par simplicité est tout retourné. Tout ce luxe l'étourdit. Mais il se dit aussi avec peur qu'il va être obligé de passer à la deuxième étape de leur plan. Et cela risque d'être très dangereux. Il passe sa semaine agréablement grâce à Adrien. Adrien leur fait visiter Paris, lui fait visiter Paris et l'invite au restaurant, voir des spectacles aussi. Il lui dit aussi qu'il faut qu'il ait de nouveaux vêtements, que maintenant il est une personne qui va avoir de l'avenir, qu'il faut qu'il ait des vêtements mieux coupés et de meilleure qualité. Alors il le mène dans des boutiques pour qu'il puisse acheter des vêtements. C'est lui qui choisit les vêtements et paye. Jules ne se reconnaît pas, ça le change complètement. La semaine passe très vite parce qu'ils ont fait énormément de choses. Puis, Adrien le mène à son rendez-vous. Une fois entré dans l'entreprise, il est mené chez Monsieur Mercier. Jules est très intimidé. Adrien attend dehors dans la voiture. Il entre dans le bureau de Monsieur Mercier, qui est aussi un grand bureau, mais plus petit que celui du président. Monsieur Mercier, Ferdinand, 50 ans, grand, fort, cheveux gris, l'air autoritaire, est le chef des relations humaines et directeur général de la société Silver Company. Monsieur Mercier, lorsque Jules entre dans son bureau, se soulève et lui dit de s'asseoir. Il lui dit « J'ai reçu des ordres de la direction et préparez votre contrat, Monsieur Villeneuve. Vous savez, que vous êtes à l'essai pendant un mois et votre salaire sera de... Vous serez parrainé par un de nos ingénieurs qui s'occupe d'un projet d'avion supersonique pour les Anglais. Si après un mois, nous sommes satisfaits de vous, vous aurez ensuite un contrat de 6 mois, puis d'un an, et ensuite serez définitivement embauché. Nous avons une cantine, si cela vous intéresse, ou des tickets restaurants. Vous aurez un 13e mois. La sécurité, la société est une très bonne société et nos employés sont bien traités. Mais il faut travailler et d'une façon très sérieuse. Acceptez-vous ce contrat? Je lui dis que oui. Monsieur Mercier lui demande s'il a apporté ses papiers et une copie de son diplôme. Jules lui donne des papiers, puis il fait signer le contrat et Monsieur Mercier lui dit « Vous commencerez votre travail dans 2 mois. Nous ne pouvons pas faire autrement car il faut que le poste soit libéré. » Et Jules s'en retourne satisfait de son contrat. Il retrouve Adrien dans la voiture et lui dit que ça s'est bien passé. Adrien lui dit « Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rentrer à Lyon. » Je lui dis « Merci pour tout. » Adrien lui dit « Attends d'avoir fini ton plan pour me remercier. » Jules est pris dans un tourbillon et n'a plus vraiment réfléchi à Paris. Mais une fois arrivé à Lyon, sans son ami Adrien, il se sent retourné et a peur. Il est à bout aussi. Maintenant, tout est prêt. Il ne lui reste plus qu'à quitter l'appartement et faire ce qu'il va faire. Il va à l'agence demander la fin du bail. Il dit qu'il va y rester encore un mois, puis il s'en ira. Il frappe à la porte de son voisin Jean-Yves, qui a été très gentil pour lui. Son voisin a ouvert et lui demande s'il n'a pas besoin de quelque chose. Je lui dis qu'il est venu lui dire au revoir, qu'il partait dans un mois. Jean-Yves est triste et lui demande s'il ne veut pas passer la soirée avec lui. François lui dit qu'il accepte. Et il passe sa soirée à parler de choses sentimentales. Jean-Yves lui dit « C'est dommage que tu t'en ailles. J'avais beaucoup d'amitié pour toi. Je te trouvais même très bien. Que vas-tu devenir ?» François lui dit « Je suis obligé de quitter Lyon pour aller à Paris à cause d'un travail que j'ai trouvé. » Jean-Yves soupire. François lui dit « Je te téléphonerai et t'écrirai. Moi aussi, j'ai été très heureux de faire ta connaissance. » Puis, ils se sont quittés tristement. François se laisse embrasser sur les lèvres. Il se dit que c'est sûrement la dernière personne qui l'a appelé François, que désormais il est Jules. Imbert est convoqué chez le juge. Le juge est un homme petit à cheveux noirs, costume noir. Il le reçoit dans son bureau et lui dit nous n'avons rien trouvé au sujet de la mort de la famille Villeneuve, et nous avons décidé de clore l'enquête. Mais s'il y a des choses nouvelles, nous rouvrirons le dossier même 25 ans plus tard. Humbert s'en va tristement. Un mois plus tard, Jules vide l'appartement, qui est un appartement meublé. Il n'a qu'une valise à prendre et va dans un hôtel modeste de la rue Sainte-Catherine. Là, il est obligé de prendre une chambre au nom de Jules Villeneuve à cause de sa carte d'identité. Il s'est fait pousser une petite moustache et les cheveux courts. Il passe une semaine à l'hôtel. Puis, dans la nuit, très tard, il prend sa voiture pour aller à Charbonnières et devant la maison de Marie. Il observe. La rue la nuit est déserte, il n'y a pas de bruit. Marie vit seule avec son enfant. Et une nuit, habillé d'un pantalon et d'un blouson noir, il a pris sa voiture pour aller dans la rue de Marie. Tout est calme, pas de bruit, il est 2 heures du matin. Il sait que Marie a le sommeil très profond. Oui, très profond. Sort de la voiture qui est garée près du portail de l'entrée de la propriété. C'est la pleine lune. Tremblant, il saute le mur et en faisant très attention, il va vers la maison. Ce n'est pas la première fois qu'il entre dans la propriété. Il passe derrière la maison. Il connaît le lieu. Il est allé plusieurs fois voir Marie et sait qu'il y a derrière la maison une petite fenêtre qui donne dans la cuisine, où les volets ne sont jamais fermés. Il va vers cette fenêtre, se sert d'un diamant pour faire une ouverture. Sur la vitre, ça n'a pas fait de bruit, passe la main et ouvre la fenêtre. Il saute dans la maison. Il sait que les chambres sont à l'étage. Alors, sans bruit, il sort de la cuisine, monte les escaliers et va au premier étage. Il tremble de peur. Il sait que s'il est pris, ce sera fini. Il souhaite que le bébé ne soit pas dans la chambre de Marie, parce que là, il ne saura pas comment il pourra faire. Non, dans le couloir, il voit la porte de la chambre de Marie qui est restée ouverte, sûrement pour entendre les cris du bébé. Il voit en face de la chambre une porte qui est ouverte. Il se dit que c'est celle du petit. Alors il entre dans la chambre, sans faire trop de bruit. Oui, c'est une chambre qu'elle a aménagée en chambre d'enfant, et a bien aménagé la chose. Jules a un pincement au corps, car il se demande s'il ne fait pas une bêtise. Il se dit que Marie semble bien s'occuper de son petit. Lui pourra-t-il s'en occuper aussi bien qu'elle? Il a 2 secondes d'hésitation. Tremblant, se demandant s'il ne fait pas une bêtise en enlevant l'enfant à sa mère. Mais puisque la chose est faite, pour ainsi dire, il faut autant la finir. Et puis, lui aussi peut aménager une chambre pour son petit. Tout doucement, il s'approche du petit, du lit de l'enfant. L'enfant dort profondément. Il est tout ému. Pour la première fois, il est près de son enfant. Il le distingue à peine, tremblant, ému. Il se penche sur ce petit être. L'enfant ne bouge pas. Il dort. Jules a envie de pleurer. Il se dit qu'il s'abandonne à lui. Il prend l'enfant dans ses couvertures et sans faire de bruit, oh, surtout sans faire de bruit, il sort de la maison. Il a pris l'enfant dans ses bras. Tout se passe bien. Il sort de la propriété, entre dans la voiture. Il met à côté de lui le petit dans un coussin et met la voiture en route. Il a très peur que l'enfant se mette à crier. Mais non, il dort tranquillement. Voilà, la chose est faite. Il est très ému et a très peur. Le petit est tellement fragile. Il se demande s'il pourra vraiment s'en occuper. Oui, comment pourra-t-il s'occuper de ce petit si fragile ? Il entre dans l'hôtel sans se faire remarquer. Le gardien de l'hôtel est en train de lire son journal. Une fois dans sa chambre, tremblant, il s'assoit sur le rebord du lit, avec à côté de lui le coussin de l'enfant. Il se dit que si l'enfant se met à pleurer, il est perdu. Mais comment faire? Il a hâte que ce soit le lendemain matin. Ils partiront avec la nourrice. Mais non. L'enfant dort calmement. Jules ne dort pas une minute. Il n'a fait que le regarder, très inquiet. Tellement inquiet qu'il n'a pas apprécié d'avoir près de lui son enfant. Et puis il est tellement petit, tellement fragile, que cela fait peur. Enfin, le jour est là. Il a rendez-vous à 6h du matin devant le café où il a rencontré pour la première fois la nourrice. Il a payé la veille l'hôtel. Une fois qu'il a fait sa valise, pris le petit coussin, en essayant de ne pas faire de bruit, Il sort de l'hôtel sans être vu. Il a pris sa voiture. Et arrive au café. Il est un peu en avance, attend dans la voiture, voit arriver la nourrice avec deux valises. Il sort de voiture avec le petit et va vers elle. Il lui présente le petit et lui dit de s'en occuper. La nourrice est émue par cet enfant. Elle est conquise par lui. Ils prennent un petit déjeuner. Ensuite, la nourrice s'occupe du bébé qui vient de se réveiller. Elle va dans les toilettes du grand café pour changer ses couches, le nettoie un peu et lui donne le sein. Et ils sont partis. Le trajet se passe bien avec de nombreux arrêts à cause du petit. La nourrice est toute excitée et heureuse. Elle est à l'arrière avec le petit. Elle est tellement excitée et heureuse qu'elle ne pose pas de questions à Jules. Et Jules est tellement excité par la peur qu'il ne parle pas. Et tous les deux ne se rendent pas compte qu'ils ne parlent pas. Et puis elle est tellement occupée par le petit. Elle lui fait des mamours, etc. Enfin, ils sont arrivés à Paris en fin de matinée. La charbonnière, Marie, en se levant, va à la chambre du petit. Elle s'aperçoit qu'il n'est pas là. Elle court dans les pièces de sa maison et voit que la fenêtre de la cuisine est ouverte et qu'une vitre a été brisée. Elle comprend, mais elle ne sait plus. Elle est tellement perdue qu'elle a tellement peur pour son petit. Et au bout d'un moment, pour reprendre ses esprits, elle prévient la police par téléphone. Un policier arrive. Elle lui explique l'enlèvement du petit et lui montre la vitre brisée. Le policier voit des pas sur le sable du jardin. Il prévient son supérieur par téléphone. Oui, il y a bien eu un enlèvement. Donc, on amène Marie au commissariat pour qu'elle puisse faire une déposition. Marie dit que c'est peut-être son ancien ami François Perret qui a dû prendre le petit. Elle avoue qu'il en est le père. La police fait une recherche sur François Perret. Marie a dit où il habitait. Ils y vont, mais ils ont appris qu'ils avaient pris congé. On fait une enquête sur lui dans le quartier, ses voisins. Il a disparu, ce doit être lui. On fait une recherche nationale. Marie dans tous ses états et a très peur pour son enfant. On lui fait comprendre que si le père a pris son enfant, ce n'est pas pour le tuer. Marie est entrée chez elle, elle tourne en rond dans les pièces, elle est comme une folle et crie qu'elle veut son enfant, que François doit lui rendre son enfant. Jules apprend ça à Paris par les informations et a peur de se faire prendre. Malgré tout, une nouvelle vie commence pour lui. Il a un travail dans une nouvelle vie et à la charge d'un enfant. L'aménagement s'est très bien fait. La nourrice est très satisfaite de la chambre qu'il lui a donnée. Puis Jules a commencé à travailler et son travail lui plaît. L'ambiance est très bonne. Il s'attache à son enfant qui semble ne pas faire la différence entre sa nouvelle vie et la vie qu'il menait. Il est vrai qu'il est encore petit. La nourrice le soigne avec amour. Elle est heureuse de vivre à Paris. Elle mène l'enfant se promener dans la poussette au parc Monchaux. Et le quartier est très agréable, surtout qu'il y a un grand parc pour le petit. Lorsque Jules ne travaille pas, lui aussi s'occupe du petit. Il le longe et essaye de s'amuser avec lui. L'enfant semble accepter les deux personnes. La nourrice dit à Jules, « Il faut que le petit voie de temps en temps un médecin pour voir si tout va bien. » Elle trouve un médecin pour s'occuper de l'enfant. Tout se passe bien. Jules, dans le quartier, pour le médecin, pour toutes les personnes qui le connaissent, c'est un jeune homme qui est seul et qui élève son enfant avec une nourrice. On le regarde avec affection et on se dit qu'il a beaucoup de courage d'élever un enfant seul. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Dodécaphonique, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.